Le Mois Market
avec Candy Crush.
Alors, qu'est-ce que vous nous réservez comme promo bien corsé pour le Mois Market ?
Une offre qui va vous réveiller, Michel. Par exemple, pour un lot de café moulu carte noire acheté, le deuxième est à moins 70%.
C'est intense comme promo, ça ?
Oui, et c'est sur de nombreux produits de marque jusqu'au 22 novembre chez Carrefour Market.
Oh, trop fort de café votre Mois Market avec Candy Crush.
Bien joué le Mois Market.
Avec Candy Crush.
Le lot de 3 paquets de 250 grammes, soit 750 grammes. Remise immédiate.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il y a 100 ans, jour pour jour, naissait à Cherbourg l'un des grands intellectuels français de la deuxième moitié du XXe siècle. Franck Ferrand rend hommage cet après-midi à Roland Barthes. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je suis très heureux de cette émission anniversaire, cette émission du centenaire que nous allons faire en compagnie de Julia Kristeva. Elle a sur nous l'avantage incomparable d'avoir très bien connu Roland Barthes.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question d'Alexis sur l'origine de l'expression « prendre la poudre d'escampette ».
J'aurais tellement aimé entendre ce que Barthes avait à dire sur une expression comme celle-là.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Régulièrement, ces dernières années, j'ai emprunté certaines de mes évocations des années 50 à un recueil célèbre de Roland Barthes intitulé « Mythologie ». Il s'agit sans doute du plus accessible de ses ouvrages, du plus parlant pour le public. Dans cet ouvrage, le sémiologue, c'est-à-dire le décrypteur des signes au sein de la culture, au sein de la société, je pourrais dire simplement l'écrivain, Roland Barthes y évoque avec une sorte de délectation le catch, les photos hardcore, le genre du péplum au cinéma, la poésie de Minou Drouet, la forme de la déesse Citroën, la publicité, l'information, le beefsteak et les frites. Bref, à chaque fois, au-delà d'une analyse fine, profonde, d'une analyse percutante d'un microphénomène, ce que Barthes met en scène, c'est son combat, c'est sa lutte de Jacob avec l'ange, c'est cette espèce de bras de fer contre les évidences, les truismes, les facilités, les tautologies de ce qu'il appelle la pensée petite bourgeoise. La pensée petite bourgeoise, voilà nommée l'ennemi irréductible de Roland Barthes, la bêtise quotidienne dissimulée sous le vocable apaisant de bon sens. À chaque fois que je lis ou relis, à chaque fois que je cite Barthes, je ne peux pas me garder d'un double sentiment d'adhésion admirative d'un côté. On ne peut qu'adhérer au raisonnement implacable, puissant parfois, de Roland Barthes, et d'un léger malaise devant l'espèce d'acharnement de cette intelligence à traquer la sottise ordinaire, le faux sens et l'opinion commune. Alors, avant tout, laissez-moi vous dire comment j'ai découvert Roland Barthes. Alors que jeune homme, je sortais d'une exposition au Grand Palais, on était en 1986, j'avais 18 ans. L'expo s'intitulait « De Rembrandt à Vermeer, les peintres hollandais au Maurice Suisse de La Haye ». Et elle présentait un florilège étourdissant de grandes peintures hollandaises, la vue de Delft, de Vermeer avec son fameux petit pan de mur jaune, cher à Proust, mais aussi des portraits de corporations, certaines des plus puissantes natures mortes qui soient possibles de voir. Or, je me souviens qu'un cartel de l'exposition citait un texte de Barthes issu du recueil des essais critiques et qui s'appelait « Le monde objet ». Ce qui fait que de retour dans ma chambre d'étudiant, je me suis précipité sur ce volume qui faisait partie de ma petite bibliothèque mais que je n'avais encore jamais ouvert. Bonheur, l'article sur la peinture hollandaise se trouve justement en tête d'ouvrage et voici le genre de notation que j'y découvre. Je cite Roland Barthes. « Le souci des peintres hollandais ». Ce n'est pas de débarrasser l'objet de ses qualités pour libérer son essence, mais bien au contraire, d'accumuler les vibrations secondes de l'apparence, car il faut incorporer à l'espace humain des couches d'air, des surfaces et non des formes ou des idées. Des peintres de nature morte comme Van Velde ou Hedda n'ont eu de cesse d'approcher la qualité la plus superficielle de la matière, la luisance, huître, pulpe de citron, vers épais contenant un vin sombre, longue pipe en terre blanche, marron brillant, faïence, coupe en métal bruni, trois grains de raisin. Quelle peut être la justification d'un tel assemblage? sinon de lubrifier le regard de l'homme au milieu de son domaine et de faire glisser sa course quotidienne le long des objets dont l'énigme est dissoute et qui ne sont plus rien que des surfaces faciles. D'autres arts, ajoute Barthes, d'autres époques ont pu poursuivre sous le nom de style la maigreur essentielle des choses. Ici, rien de tel. Chaque objet est accompagné de ses adjectifs. La substance est enfouie sous ses mille et mille qualités. L'homme n'affronte jamais l'objet qui lui reste prudemment asservi par tout cela même qu'il est chargé de lui fournir. Autrement dit, il n'y a jamais ici un état générique de l'objet, mais seulement des états qualifiés. Bien entendu, Roland Barthes passe volontiers de l'analyse de la peinture à la description de l'environnement qu'il l'a vu naître. Je le cite encore. Toute la ville d'Amsterdam semble avoir été construite en vue de cet apprivoisement. Il y a ici bien peu de matériaux qui ne soient annexés à l'empire de la marchandise. Ce seront des objets aussi bien définis que des fromages, des caisses de sucre, des bonbonnes ou des pousses de sapin, ajoutés au mouvement de l'eau qui transporte. Le plan vertical des maisons qui retiennent, absorbent, entreposent ou restituent la marchandise, tout ce concert de poulies, de courses et de transbordements opère une mobilisation permanente des matériaux les plus informes. Chaque maison s'épure brusquement vers le haut. Il n'y a plus dressé contre le ciel qu'une sorte de bouche mystique qui est le grenier, comme si tout l'habitat humain n'était que la voie ascendante de l'entreposement, ce grand geste ancestral des animaux et des enfants. Je ne sais pas si on peut dire sérieusement qu'il est possible de tomber amoureux d'un auteur ou d'un style, mais je crois bien tout de même que ce soir-là, dans ma chambre d'étudiant, je suis tombé amoureux de cette intelligence tellement lumineuse et tellement séduisante.
Majeur de Bach par Glenn Gould sur Europe 1. Cet après-midi, Franck Ferrand rend hommage à Roland Barthes car aujourd'hui nous fêtons les 100 ans de sa naissance. Franck Ferrand revient dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Nous sommes le 12 novembre aujourd'hui et Franck Ferrand, vous avez décidé de célébrer les 100 ans de la naissance de Roland Barthes.
Dans le fameux antagonisme de Sainte-Beuve et de Proust, d'un côté la vie des auteurs, leur biographie comme support, comme explication de l'œuvre, et puis de l'autre l'œuvre elle-même comme expression suffisante de la vérité d'un auteur, dans cet éternel débat entre l'intérêt indiscret pour la vie de l'écrivain et la passion exclusive pour ses écrits, pour ses textes, nul doute que Barthes se soit situé du côté de Proust et du texte. Laissez-moi pourtant m'attarder un instant du côté de Sainte-Beuve, si j'ose dire, et puiser dans la biographie de Barthes quelques repères qui vous permettent de le situer peut-être un petit peu mieux. Il me suffit pour cela d'ouvrir le remarquable hors-série du Monde intitulé « Roland Barthes, l'inattendu » et de l'ouvrir aux deux doubles pages de la chronologie. Est-ce qu'on y apprend bien que Roland Barthes est né, n'est-ce pas, le 12 novembre 1915, il y a exactement 100 ans, à Cherbourg? Son père, Louis Barthes, était officier de marine marchande. Quant à sa mère, Henriette, elle était âgée à l'époque de 22 ans. Louis Barthes ne va pas longtemps connaître son fils, qui lui ne se souviendra même pas de lui, puisqu'il meurt le 27 octobre 1916. On est en pleine Grande Guerre, bien sûr. Il est tué lors d'un combat naval en mer du Nord. Et dès lors, c'est avec sa mère que va vivre Roland Barthes. C'est une enfance qui a lieu à Bayonne jusqu'en 1924, et puis en 1924, il s'installe avec sa mère à Paris dans le 6e arrondissement. Il est scolarisé au lycée Montaigne. L'année 1927 voit la naissance d'un demi-frère de Roland qui s'appelle Michel Salzedo. Il est né d'une liaison de la mère de Roland Barthes avec André Salzedo. Roland fait ses études dans les années 30, au début des années 30, au lycée Louis-le-Grand à Paris. Et en 34, ça c'est très important, en 34, il est affecté d'hémoptysie, une lésion du poumon gauche. Et ça, ça va le poursuivre toute sa vie. Il va d'abord séjourner avec sa mère et son demi-frère à Bedoux, dans les Pyrénées, pour suivre une cure libre. Après quoi, il ira souvent en sanatorium. Alors, ça n'empêche pas de mener des études. De 35 à 39, il fait ses études de lettres classiques à la Sorbonne. Il va d'ailleurs fonder un groupe de théâtre antique. Il faut savoir que le théâtre sera toute sa vie la passion de Roland Barthes, dont les critiques théâtrales sont peut-être après tout le meilleur de son œuvre. Il sera prof de lycée à Biarritz, puis à Paris, au tout début de la guerre, en 39-40. Encore une fois, lui est malade, il n'est pas mobilisé. Et sa tuberculose pulmonaire va récidiver en 1941 et l'envoyer au sanatorium des étudiants de Saint-Hilaire du Touvet en 42. Il devra d'ailleurs y retourner en 43 à cause d'une rechute. Donc vous voyez que pendant toute la guerre, il est très malade du poumon. Il passera encore un an en 1945 au sanatorium de Lézin en Suisse. C'est en Suisse qu'il commence la lecture de Michelet. Mais quand je dis la lecture, c'est une lecture systématique, bien entendu, et qui va aboutir à une thèse consacrée à Michelet en 1946. 46, d'ailleurs, 47, 48, 49, c'est l'époque où Barthes écrit dans la revue Combat. Il est prof à l'Institut français de Bucarest, puis attaché culturel avant d'être envoyé à l'université d'Alexandrie, détaché en 50 à la direction des relations culturelles au ministère des Affaires étrangères. C'est là qu'il va publier enfin ce qui était sa thèse, une sorte de thèse arrangée, si vous voulez. Ça s'appelle Michelet, l'histoire et la mort. Et ça vous dit assez si Roland Barthes s'est intéressé à l'histoire, n'est-ce pas, à travers le premier des historiens français. Il n'en écrit pas moins à l'époque toutes sortes de critiques de théâtre, qui vont paraître dans la revue Théâtre Populaire, notamment, entre autres. Et il va aussi mener des travaux sur la lexicologie déjà et sur les signes tels qu'ils apparaissent à travers les textes à partir de 1950. Le premier livre célèbre en quelque sorte de Roland Barthes est publié en 1957. En 57, il a quand même 42 ans, hein. C'est Mythologie dont je vous parlais tout à l'heure. Il sera très bientôt directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Il s'intéresse à ce moment-là à Racine avec ce livre extraordinaire et que je vous conseille entre tous qui s'appelle Sur Racine et qui va lui valoir la critique féroce de tous les professeurs d'université, à commencer par Raymond Picard. La réponse de Barthes s'appelle Critique et vérité, elle date de 66, et là déjà, à partir de 66, on peut dire que Roland Barthes est un homme célèbre. Il va l'être bien plus encore dans les années 1970, jusqu'à être finalement élu au Collège de France, s'il vous plaît. Cette élection au Collège de France nous vaudra la célèbre leçon inaugurale, hein, qui encore aujourd'hui est un texte merveilleux. Cette leçon inaugurale prononcée le 7 janvier 1977, très peu de temps avant sa mort finalement, puisque Roland Barthes perd sa mère le 25 octobre 1977. Il n'est plus qu'un survivant après la mort de sa mère. Il faut bien comprendre cette dimension-là. Il écrira La Chambre claire notamment, où il lui rend un hommage extraordinaire. Et il meurt lui-même le 25 février 1980 d'un accident. Vous savez qu'il a été renversé en traversant sur le passage Clouté devant le Collège de France. Il a été renversé par une camionnette. Voilà une mort bien bête pour un homme aussi intelligent.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et c'est une émission un petit peu spéciale aujourd'hui, une émission hommage que vous faites, Franck Ferrand, puisqu'il y a 100 ans, jour pour jour, naissait le grand homme de lettres Roland Barthes. Roland Barthes, vous avez décidé de nous faire découvrir son univers.
Au fond, à l'essence, à la quintessence, au cœur même de l'univers de Barthes, les pédants parleraient de monde barthésien, il y a l'écriture, ou plus substantiellement, il y a le texte, ce tissu de mots, hein, le texte, c'est ce qui est tissé, ce tissu qui emprisonne trois sens, si j'en crois l'auteur. Analysant une image tirée du film d'Eisenstein, Ivan le Terrible, voilà les trois sens que définit Barthes. Alors l'image montre deux courtisans ou deux aides, deux comparses qui, je le cite, versent une pluie d'or sur la tête du jeune tsar. Il me semble, dit Roland Barthes, distinguer dans cette scène trois niveaux de sens. D'abord, un, le niveau informatif, où se rassemble toute la connaissance que m'apporte le décor, les costumes, les personnages, leur rapport, leur insertion dans une anecdote que je connais. Ce niveau est celui de la communication, dit-il. Bon, jusque-là, pas très compliqué. Deux, un niveau symbolique. C'est l'or versé, écrit Roland Barthes. Ce niveau est lui-même stratifié. Il y a le symbolisme référentiel, c'est le rituel impérial du baptême de l'or. Il y a ensuite le symbolisme diégétique, c'est le thème de l'or, de la richesse dans Ivan le Terrible. Et il y a encore le symbolisme eisensteinien, je vous fais grâce du reste. Bref, un niveau dénotatif de communication, un niveau symbolique. Trois, est-ce tout ? Demande Barthes. Non. Non, car je peux encore me détacher de l'image. Je lis, je reçois, probablement même en premier, évident, erratique et têtu, un troisième sens. Je ne sais quel est son signifié, mais je vois bien les traits, les accidents signifiants dont ce signe dès lors incomplet est composé. C'est une certaine compacité du phare des courtisans, ici épais, appuyé, là lisse, distingué, le nez bête de l'un, c'est le fin dessin des sourcils de l'autre, sa blondeur fade, son teint blanc et passé, la platitude apprêtée de sa coiffure qui sent le postiche, le raccord au fond de teint plâtreux, etc., etc. C'est quelque chose d'assez inexprimable en quelque sorte. Le sens symbolique, c'est un sens qui me cherche, moi, destinataire du message, dit-il, il vient au-devant de moi, je propose d'appeler ce signe complet le sens obvi. Obvius veut dire qui vient au-devant. Quant à l'autre sens, ajoute Roland Barthes, le troisième, celui qui vient en trop comme un supplément que mon intellection ne parvient pas à absorber, à la fois têtu et fuyant, lisse et échappé, je propose de l'appeler le sens obtus. Obtus qui vient de obtusus, qui est émoussé de forme arrondie. Or, les traits que j'ai indiqués ne sont-ils pas comme l'émoussement d'un sens trop clair et trop violent, demande-t-il. Ce sens obtus, finalement, me paraît être l'espèce de baleine blanche, d'inaccessible et fuyante licorne que Barthes aura cherché, traqué à travers la longue liste de ses articles, de ses travaux, de ses livres, de ses séminaires à l'école des hautes études et qui s'apparente peut-être au style. Dans le degré zéro de l'écriture, qui est peut-être le legs suprême de la quête de sens de Roland Barthes, voici ce qu'il écrit. La langue est donc en deçà de la littérature, le style presque au-delà. Des images, un débit, un lexique naissent du corps et du passé de l'écrivain et deviennent peu à peu les automatismes mêmes de son art. Il est bien placé pour parler des automatismes de l'art, Roland Barthes, qui en possédait lui-même un certain nombre. Je reviens dans son texte. Ainsi, sous le nom de style, se forme un langage autarcique qui ne plonge que dans la mythologie personnelle et secrète de l'auteur, dans cette hypophysique de la parole où se forme le premier couple des mots et des choses, où s'installent, une fois pour toutes, les grands thèmes verbaux de son existence. Quel que soit son raffinement, le style a toujours quelque chose de brut. Il est une forme sans destination, il est le produit d'une poussée, non d'une intention, il est comme une dimension verticale et solitaire de la pensée. Ses références sont au niveau d'une biologie ou d'un passé, non d'une histoire. Il est la chose de l'écrivain, sa splendeur et sa prison. Il est sa solitude. Indifférent et transparent à la société, démarche close de la personne, il n'est nullement le produit d'un choix, d'une réflexion sur la littérature. Il est la part privée du rituel. Il s'élève à partir des profondeurs mythiques de l'écrivain et s'éploie hors de sa responsabilité. Il est la voix décorative d'une chair inconnue et secrète. Il fonctionne à la façon d'une nécessité, comme si dans cette espèce de poussée florale, le style n'était que le terme d'une métamorphose aveugle, obstinée, partie d'un infralangage qui s'élabore à la limite de la chair et du monde. Bonjour Julia Kristeva. On peine à sortir de Roland Barthes, mais grâce à vous, on va y revenir très vite.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Franck Ferrand, vous rendez hommage à Roland Barthes sur Europe 1. Vous recevez Julia Kristeva, écrivain, psychanalyste et professeur émérite à l'université Paris 7 Diderot.
Pour Roland Barthes, Julia Kristeva, vous étiez l'étrangère. Expliquez-nous cela.
Ah, est-ce que ça s'explique ? Il a écrit dans un texte, donc c'est disséminé à travers toute son œuvre, cette histoire d'étrangeté. Mais puisqu'on est dans l'histoire, je vais raconter l'histoire de notre rencontre. Je suis arrivée en France à la veille de Noël 65, avec une bourse de général de Gaulle pour faire une thèse sur le nouveau roman. Et nécessairement, j'ai atterri dans le séminaire de Barthes qui se tenait rue des Écoles.
D'où veniez-vous, il faut
je
le dire à
nos auditeurs.
Je venais
de Bulgarie, évidemment. Oui. Donc moi, je me décris comme une citoyenne européenne de nationalité française, d'origine bulgare et adoptée par les Américains. Mais à l'époque, je n'étais qu'une étudiante bulgare qui arrivait donc avec sa bourse d'études pour le nouveau roman. Et on m'a dit, évidemment, il faut aller chez Roland Barthes. C'était à la veille de Noël. On parlait d'une récente, à l'époque, visite de Solers qui avait parlé de Mallarmé. Créer la littérature, c'est créer un monde total neuf étranger à la langue, comme vous le savez. Et Marthe Robert qui avait parlé de psychanalyse et littérature. Donc Barthes avait publié Éléments de sémiologie, je l'avais lu en Bulgarie, mais nous étions déjà, comme toujours, à l'Est, un peu en avance sur l'Ouest, et nous avions déjà traversé ce formalisme un peu restreint. Nous étions avec Mikhaïl Bakhtine dans l'œuvre de Rabelais et de Dostoïevski, et dans notre esprit, la structure du roman, du récit, quelle qu'elle soit, est une polyphonie qui s'enracine dans l'histoire et dans le dialogue avec d'autres genres, d'autres textes. Donc, je lui ai parlé du dialogisme, de l'intertextualité.
Vous êtes allé voir à l'école des hautes études?
Oui, c'était à l'école des hautes études. C'était le séminaire donc, qui se tenait à la Sorbonne, mais qui faisait partie des hautes études. Et donc, il était très, très intéressé et très sympathique, ouvert. On reçoit tout de suite ce qu'il appelait lui-même le grain de la voix, mais aussi cette empathie avec l'étudiant et même avant 68, nous sommes en 65, cet intérêt pour le discours de l'étudiant et l'intérêt aussi de non seulement de l'encourager, mais de lui montrer qu'il est dans une sorte d'interaction avec lui, qu'il va lui emprunter des idées, qu'on va échanger, qu'on va travailler ensemble. Et en effet,
c'était un véritable échange. Il y avait une dimension de laboratoire, dites-vous, en fait.
Exactement. C'était quelqu'un, je pense qu'il l'a fait avec la plupart de ses étudiants, mais j'étais très sensible à cela. Il vous écoute, non pas pour vous dire qu'est-ce que vous prenez de mon œuvre, comment vous me citez, est-ce que vous êtes fidèle. Il n'y a pas de disciple de Roland, donc on reviendra sans doute là-dessus. Mais on est dans la coprésence, on est dans la collaboration, on est dans une action commune. On va entrer dans cette incarnation infinie du Logos ensemble. Et c'était pour lui, la sémiologie, c'était ça. C'était une manière de s'approprier la langue dans la chair et dans l'histoire.
Avec l'émergence d'idées, de concepts communes, en quelque sorte. C'était une émergence.
Parfois, pour lui, surprenante, des idées, des élaborations. Il était très sensible à la surprise, à la nouveauté. Ce n'est pas par hasard qu'il a écrit des fragments d'un discours amoureux. Il était en attente d'un acte d'empathie et de résonance avec son œuvre, mais en même temps d'une surprise qui lui apporte quelque chose de nouveau qu'il développait par la suite lui-même.
À quoi travaillait-il au milieu des années 60 là? Quel était son centre d'intérêt? L'un des, parce qu'il y en avait une grande quantité.
C'était l'époque où sortait Critique et Vérité. Et il réagissait au discours de la Sorbonne, là, qui trouvait que son Racine n'était pas le Racine qu'on voulait.
Ce que je racontais tout à l'heure. Oui.
Voilà. Et il essayait de faire comprendre qu'il y a une histoire des textes, mais il y a aussi une postérité, une vie des textes dans l'histoire, et qu'au lieu où se place l'interprète, il est possible d'aborder le texte dans sa chair, dans sa logique, et dans la logique de l'interprète. Il était absolument négatif vis-à-vis de l'idée de l'interprétation froide que Nietzsche lui-même fustigeait, mais il voulait l'incarner en son lieu à lui, dans sa vérité à lui. Celui qui le reçoit et qui l'aime.
Ce texte, il est au cœur, bien entendu, de toute l'œuvre de Roland Barthes. Il travaille sur le texte, pour le texte, d'une certaine manière. Il y a ce célèbre petit ouvrage qui s'appelle « Le plaisir du texte ». Je dis petit par le volume, pas du tout par l'importance de ce texte. Et Roland Barthes y met en avant une approche qui est quasiment, je lui laisse la parole. « Le texte produit en moi, dit-il, le meilleur plaisir s'il parvient à se faire écouter indirectement. Si le lisant, je suis entraîné à souvent lever la tête, à entendre autre chose. Je ne suis pas nécessairement captivé par le texte de plaisir. Ce peut être un acte léger, complexe, ténu, presque étourdi, mouvement brusque de la tête, tel celui d'un oiseau qui n'entend rien de ce que nous écoutons, qui écoute ce que nous n'entendons pas.
Oui, c'est tout à fait cela. Il résume parfaitement ce qui va devenir après sa manière de bousculer le structuralisme. C'est un structuraliste dissident, disruptif. Enfin, il a absolument secoué la Sorbonne et les sémiologistes eux-mêmes. Ce que vous dites là me fait penser à une étude qu'il a faite de Sarrazine de Balzac.
SZ,
qui est un roman assez méconnu. Il n'y avait que Bataille qui s'était intéressé à ce texte en le comparant à l'idiot de Dostoïevski et à Proust. Mais Barthes s'empare de ce texte et très rapidement, il s'agit d'un sculpteur qui tombe amoureux, Sarrazine, donc le sculpteur qui tombe amoureux d'une chanteuse et qui,
la Zambinella,
donc S, Sarrazine, Z, Zambinella, il découvre que c'est un castrat, il va mourir pour finir. Donc c'est un texte sur l'impossibilité de l'amour et l'intensité de la sensation. Comment la traduire en langue? Eh bien, il prend le texte de Balzac. Et chaque phrase est décortiquée de la manière de l'oiseau dont vous parlez en le lisant, qui fait qu'on a l'impression que cette impossibilité est non seulement dans le message du texte, mais dans chaque phrase, qu'elle parle de la pluie, du beau temps ou d'un détail de mobilier. Barthes voit l'incarnation de cette logique dans chaque élément du texte.
Et c'est même caché là où ça ne peut pas être trouvé. Oui, c'est
voilà.
Ça fait penser, dans un autre ouvrage qui s'appelle L'obvie et l'obtus, à la notion de troisième sens inventée par Barthes. Il parle du premier sens qui est dénotatif, tout à fait naturel et évident, un deuxième sens symbolique sur lequel s'attachent généralement les critiques, et un troisième sens, dit-il, qui ne peut pas se réduire à des mots.
Absolument. Et il dit cela de manière très juste. Le texte dit le lieu du sens, le lieu, l'émergence, la germination, la signifiance, il emploie ces termes, mais ne le nomme pas. Donc ne le met pas en conserve, ne le cloisonne pas.
J'imagine que pour certains de nos auditeurs, les termes que nous employons sont peut-être un peu étonnants. Il y a chez Barthes un goût pour le néologisme, pour la fabrication de termes qui puissent épouser le sens au plus près.
C'est très juste et je suis contente que vous souleviez ce problème parce qu'il l'a indiqué dès le début dans un texte qu'il a écrit sur moi qui s'appelle L'étrangère pour signifier en fait sa propre place dans l'étude et peut-être dans l'existence, qui est une place d'étrangeté vis-à-vis des lieux communs, de ce qu'il appelait les préjugés, la bêtise. Et ça me fait penser à une phrase de Kafka, « Se mettre, bondir, hors du temps des meurtriers ». La langue peut être le temps et le rang des meurtriers. Quand elle devient élément de langage, schéma, quelque chose qui rétrécit la pensée, eh bien, il est constamment dans cet interstice, dans ce bond en dehors de l'évidence. Et à partir de là, on arrive à une respiration de la langue et une invitation à ce que vous deveniez créateur. Par conséquent, le sens dont vous parlez, le sens obvie, le sens tiers, il le cherche à la fois dans l'humeur, d'où son magnifique texte, un fragment du discours amoureux, la sensation indicible, cette verticalité, dit-il, de la parole, qu'est le style. Et en même temps, dans ce qu'il appelle l'écriture, là ce sont encore des mots en effet apparemment techniques mais très précis pour lui, qui est la morale de l'histoire et la sensibilité à l'histoire, c'est-à-dire pouvoir choisir des différents mots, des différents morales de langage, quelque chose qui parle à l'histoire. Et c'est dans cet équilibre-là que se situe à la fois sa précision, en parlant de l'étranger, il dit « mais qu'est-ce que c'est l'étranger ?» C'est quelqu'un qui veut être exact. L'exactitude de Roland, c'est de trouver des mots qui soient au carrefour de la perte du sens et de l'historicité du sens. Et ça suppose aussi que le langage, à travers cette exactitude qui peut gêner certains lecteurs, est un lieu qui se retourne sur soi-même. Le langage, dit-il pour l'écrivain, est un problème, non pas instrument, ni même pas une beauté. C'est un problème, vous le décortiquez et vous l'innovez.
Comme s'il y avait l'obsession chez cet auteur et chez ce penseur, l'obsession d'aller chercher le sens derrière les apparences. On pense au monde objet de sa critique sur la peinture hollandaise, par exemple. Comme s'il y avait cette volonté d'entrer en quelque sorte dans la vérité du sens contre tous les préjugés. Je parlais tout à l'heure de ce combat, un peu comme celui de Jacob avec l'ange, ce combat du penseur contre les préjugés, contre ce qu'il appelle la mentalité petite bourgeoise, qui a été son grand ennemi mis dans la vie, en quelque sorte, c'était cette volonté d'aller plus loin et de faire sortir les choses, de faire sortir le sens. Avec toujours, et vous l'avez au moins à deux reprises déjà évoqué, Julia Kristeva, avec toujours en arrière-plan cette dimension de plaisir et même d'amour. Nous y venons dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Roland Barthes est né il y a 100 ans, jour pour jour, et pour lui rendre hommage, à vos côtés, Franck Ferrand, cet après-midi sur Europe 1, Julia Kristeva, écrivain, psychanalyste, professeur émérite à l'Université Paris 7 Diderot.
Oui, nous avons beaucoup de chance d'avoir avec nous Julia Kristeva cet après-midi, car vous êtes sans doute, Julia Kristeva, une de celles qui ont le mieux connu Roland Barthes. Vous l'avez accompagné dans un grand voyage en Chine, par exemple, racontez-nous cela.
Ah, écoutez, c'était une épopée magnifique. La Chine venait d'être admise à l'ONU et nous étions la première délégation d'intellectuels.
Au milieu des années 70.
74, mm-hmm. Très exactement, au mois de mai. Lacan devait venir, il n'a pas pu finalement. Il y avait François Valle, Marcelin Plenet, Philippe Solers, Barthes et moi-même. C'était magique parce que, pour ne parler que de Barthes, il était absolument fasciné par justement les signes, la calligraphie, le mouvement des corps. Et pour lui, c'est une manière d'interpréter en permanence. Nous étions très souvent, parce que je m'intéressais beaucoup aux femmes, amenés dans des lieux de fouilles où on trouvait comment le matriarcat était la religion, si on peut dire, sous-jacente au confucianisme, c'est-à-dire la base du taoïsme. Et ça l'intéressait beaucoup d'entendre l'interprétation marxiste de ce phénomène, mais aussi de filmer les petits-enfants dans les jardins d'enfants qui me fascinaient, etc. Donc il vibrait avec cette histoire de la Chine plutôt. Il s'ennuyait prodigieusement devant les opéras communisto-romantiques avec des femmes en pointe et avec des voix extrêmement terrifiantes. Et ce qui nous gênait un peu, c'est qu'il trouvait qu'il n'y avait pas assez de jeunes autour de lui. Il se mettait au bord de chaque rangée au moment des théâtres et d'autres spectacles, dans l'espoir de rencontrer un objet de fascination, un jeune homme, ce qui nous faisait trembler évidemment d'angoisse, mais tout s'est bien passé.
D'angoisse vis-à-vis du régime, bien entendu.
Vis-à-vis du régime qui était extrêmement rigide. Mais il était assez déçu évidemment, comme nous tous, de cette ouverture que le maoïsme annonçait à l'époque et qui n'existait pas.
Oui. Plus que la Chine, c'est le Japon qui l'aura fasciné.
Absolument.
L'Empire des Signes, n'est-ce pas?
Tout à fait, il a fait un très très beau livre sur l'Empire des Signes. Et cette écriture avec le goût très précis, très délicat de la cuisine japonaise l'intéressait beaucoup. C'était plutôt son domaine davantage que ce côté fascinant de la mer au centre que représentait la Chine, qui lui parlait aussi parce que c'était quelqu'un de très attaché à sa mère. L'objet maternel, l'amour maternel est assez présent dans les fragments d'un discours amoureux, à côté du discours de l'amour homosexuel, mais en général de l'amour. Donc il ne cachait pas ces deux faiblesses, qui sont aussi ces deux richesses, mais il les abordait avec énormément de discrétion et de tact.
Par rapport à sa mère, justement, est-ce qu'il craignait que sa mère ne découvre qu'il était homosexuel?
Il ne parlait jamais directement de cette manière-là, mais on sentait qu'il était assez prudent. L'image de sa mère est revenue très nettement dans le discours de fragment d'un discours amoureux, lorsqu'il parle du sentiment amoureux comme effondrement et comme attente et absence. Comme effondrement, bonheur ou plaisir, je suis toujours en attente d'un effondrement. Et il le renvoie à la séparation avec l'objet maternel, qui serait donc toujours à la fois aimé et impossible. Et que c'est cette figure-là qu'on découvre dans quelque amour que ce soit. Souvent à travers des ruses, des bêtises et des délires, mais c'est ce lieu-là qu'il essayait de trouver.
Il y a chez Roland Barthes une séduction évidente et qui passe notamment par la voix. Vous parliez tout à l'heure du grain de la voix qui a été un de ses objets d'étude. Il savait moduler sa voix. Il avait un grand charisme, disons-le.
Il était d'une grande séduction justement par le côté fugace de ses remarques, de ses saisies qu'on trouve dans les textes que vous citez, et en même temps avec un état de détente, de distraction et d'enveloppe sensuelle qui vous mettait à l'aise. Et parfois, cette ironie qui pour lui, il lui donne une définition magnifique, et c'est là-dessus qu'il s'entendait beaucoup avec Solers, c'est la question que la Le langage adresse au langage. Et cette ironie, il l'exprimait aussi par rapport à ses propres sentiments amoureux avec qui que ce soit, et en particulier avec les jeunes gens, en me disant par exemple qu'il était très séduit par les casse-pieds, mais en même temps il ne pouvait pas s'en passer.
Les casse-pieds,
les ennuyeux, c'est des fragments. Ou bien l'arrogance des paumés. Ce qui est aussi une manière de montrer combien on peut être entouré dans ses passions par de l'insupportable, mais que l'insupportable nous permet de découvrir notre nudité, comme il va le dire dans le discours amoureux. Donc c'est quelqu'un d'une grande franchise et en même temps d'une grande discrétion, mais avec des éléments très politiques dans son discours. Et j'aimerais bien qu'on dépasse dans cette célébration de son 100e anniversaire le côté séduction, qui est évident, mais avec lequel il a abordé, à mon sens, deux points de l'histoire contemporaine.
Alors lesquels ? Ça, c'est fondamental. Dites-nous.
Le premier, c'est le discours qu'on appelait à l'époque monologique, c'est-à-dire les clichés, les préjugés, la
racine,
bêtise.
C'est racine.
Racine, c'est racine. Et quand il part de la gauche avec son discours Nini ou des mythologies qui enferment les gens dans des cultes qu'on n'interroge pas, tout ce qui se contente d'une sorte d'intouchable
évidence. Oui.
Et à ce moment-là, il demande, par exemple, avec l'image de l'abbé Pierre, qu'il adore, qu'il trouve très sympathique. Il n'y a rien contre les franciscains là-dedans. Mais c'est un discours, dit-il, où on préfère la charité à la justice. Et sans s'interroger ni sur les limites, ni sur le bénéfice.
La nécessité d'une prise de recul.
La distance interrogative.
La distance, voilà, c'est ça.
Par rapport au discours politique. Et par rapport à ce qui n'était pas encore le spectacle. Le sentiment amoureux, par exemple, il dit c'est suranné, mais ça a l'avantage de ne pas être récupérable par le spectacle, déjà à l'époque. Et un autre phénomène dont on ne parle pas assez, on ne connaît pas Barthes de ce côté-là, pour lui, le sacré étant le plaisir du texte, il était très sensible au discours religieux. Et je ne sais pas, Franck Ferrand, si vous connaissez son livre « Sade Fourier Loyola ».
Bien sûr, merveille.
Qui se termine par une apologie des expériences spirituelles d'Ignace.
Et cette approche d'un mysticisme, en quelque sorte.
Absolument. Et ce mysticisme est, dans notre culture occidentale, la toute-puissance donnée au Verbe. Mais au Verbe incarné. Et il y a un moment extrêmement subtil dans l'analyse d'Ignace, par exemple, où il parle des exercices spirituels où dans la prière on s'identifie avec la souffrance et la gloire du Christ, et Laurent, l'exercitant, fait cette identification avec le texte évangélique tellement forte qu'il n'arrive plus à parler et il ne peut que présenter que ce qu'Ignace appelle, là aussi c'est un néologisme, on retrouve le sens et la nécessité, l'exactitude étrangère du néologisme, il l'appelle la loquela. Celui qui parle des signes, qui est le maître de la sémiologie, et qui arrive à la loquela, qui est le bord à bord entre l'indicible et le langage, et qui n'est qu'une mélodie qu'on trouverait chez le malade ou chez l'enfant, et qu'on appelle l'équela, mais à laquelle il donne une dignité. C'est tout Barthes, ça, cette subtilité. Il fonctionnait par des loquela.
Il s'est formé, si je puis dire, à ce type d'approche, à travers un des plus grands historiens français, qui aura après tout été le sujet de sa thèse, c'est-à-dire Michelet, en fait.
Ah oui, il y a absolument. Qu'il le gratifie d'une définition, à savoir qu'il a fait l'histoire cordiale, parce qu'il a su parler de la subjectivité dans l'histoire. Mais aussi, il avait compris un des prédécesseurs au Collège de France, le grand Jean Barouti, qui est le spécialiste de la mystique, notamment de Jean de la Croix, et il a beaucoup lu ces textes tout en étant d'un athéisme extravagant. Mais en nous disant, et c'est ça que je trouve très important aujourd'hui, lorsque nous sommes menacés par l'intégrisme de ce qui se prétend comme sacré, il dit finalement que le sacré, c'est la plénitude de la langue. Et si vous arrivez à l'habiter, à la dépasser, à l'interroger, vous ne serez pas menacé par le divin. C'est une espèce de définition de l'athéisme qui nous manque aujourd'hui, parce que nous sommes dans des définitions arides, rigides, d'un athéisme qui méconnaît le besoin de croire, ce qui n'est pas du tout son cas. C'est une grande richesse de sa pensée.
Nulle sécheresse chez Roland Barthes, aucun détachement stérile, au contraire. Toujours cette volonté d'épouser la matière pour en faire sortir le sens.
Ça, c'est un sens incarné toujours.
C'est ça.
Si on entend sa voix, on entend cette incarnation, et si on lit les textes, quand vous lisiez sa manière de définir le plaisir de texte, ça fait penser à Proust et la lecture selon Proust qui est dans la cuisine et qui lit avec les odeurs de la cuisine. Françoise à côté, elle est, tout son corps participe au texte.
J'avais l'intention de vous faire parler de Gérard Genette, de Philippe Solers, de Michel Foucault.
Mais je parle trop moi-même.
Mais non, finalement, je suis ravi que nous n'ayons, dans le peu de temps qui nous était imparti, mais nous n'ayons parlé, somme toute, que de Roland Barthes. C'était bien le moins pour célébrer ce centenaire de Roland Barthes. Alors, dès demain, au Collège de France, va commencer un colloque Barthes, Julia Kristeva.
Tout à fait. C'est moi qui a l'honneur de l'inaugurer et je vais parler de Barthes. Le titre est « Comment parler à la littérature ». Je résume un peu ce que nous avons dit aujourd'hui. Il ne parlait pas de la littérature ou des mythes ou de l'histoire. Il ne mettait pas ça comme un objet externe à son discours. Il était un appel. Un appel pour la littérature et vers la littérature. C'est pour ça qu'on le comprend et on le lit aussi. Comme quelqu'un qui n'a jamais franchi le bord du roman, mais qui est constamment dans le laboratoire, dans l'engendrement du roman, dans l'avènement de la littérature et non pas dans l'événement littérature.
Et au début du mois prochain, le 2 décembre, dans votre centre Roland Barthes, il y a encore un autre colloque. Et de quoi parlera-t-on cette fois?
Moi, je vais parler de Barthes à contre-courant. Mais on l'a un peu dit, là, nous avons tout annoncé, nous avons tout fait. C'est-à-dire à contre-courant de langage, le SMS universel et la peur du sacré.
On ose imaginer tout ce qu'aurait pu écrire Roland Barthes autour d'Internet, du langage SMS, etc. Hélas, il n'a pas connu ça. Je dis hélas, peut-être pour lui, mais hélas, surtout pour nous. Merci beaucoup, Julia Kristeva, d'avoir éclairé notre lanterne sur cet éveilleur.
Dans un instant, Franck, vous nous donnerez les origines de l'expression « prendre la poudre d'escampette ».
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, Franck, c'est une question, ou plutôt deux questions d'Alexis sur la page Facebook de l'émission. Il voudrait que vous reveniez sur les origines de l'expression « prendre la poudre d'escampette et filer à l'anglaise ».
Voilà une expression qui aurait beaucoup plu à Roland Barthes, à n'en pas douter. « Prendre la poudre d'escampette », une expression qui remonte à la fin du XVIIe siècle. Le mot « escampette » est un diminutif du verbe « escamper ». Escamper, c'est s'esquiver, décamper, vous voyez, c'est la réunion des deux termes. Un dérivé de « campo » du latin « campus », le champ, bon bref, c'est lever le camp d'une certaine manière. Le mot « escampette » ne s'utilise plus que dans la locution « prendre la poudre d'escampette », sinon c'est pas la peine d'essayer de le chercher dans le dictionnaire, vous ne le trouverez pas. Et « prendre la poudre d'escampette », c'est s'enfuir, bien entendu. Ces poudres, ce seraient celles utilisées à l'époque comme traitement purgatif et qui faisaient, vous savez, la fortune de toutes sortes de charlatans. Certains avaient l'habitude de se purger préventivement, parfois par mode. La poudre en grande quantité pouvait avoir des effets euphorisants, donc donner une sensation de fuite dans un autre monde, en quelque sorte. On a donné une autre explication, il pourrait s'agir de la poussière, la poudre d'escampette, ça pourrait être la poussière soulevée par le départ, justement, par la course rapide. Voilà ce qu'écrit Émile Zola dans l'Assommoir. Tant pis, si elle prenait la poudre d'escampette un de ces jours, ses parents pourraient bien faire leur mea culpa et dire qu'ils l'avaient eux-mêmes poussée dehors. On n'avait pas besoin, cela dit, comme dans le trésor de la langue, d'un Zola pour nous dire que l'expression existait. Alors, pour ce qui est de filer à l'anglaise, puisque c'était la question de notre auditeur, filer à l'anglaise, c'est filer en douce. Au XVIe siècle, le mot anglais voulait dire créancier. Ça venait probablement du verbe sangler, prendre à l'hameçon. Enfin bon, je ne vais pas entrer dans tous ces détails. Et donc, filer à l'anglaise, ça veut dire filer non pas comme un anglais au sens national du terme, mais filer comme un voleur. C'est ça que veut dire l'expression en vérité. Vous savez que les anglais, les allemands, les espagnols utilisent à peu près la même expression, mais alors ils l'ont retournée, ils disent s'en aller à la française. Take a French leave. Französischen Abschied nehmen, disent les allemands. Il sait à la francesa, disent les Espagnols. Take a French leave, ça daterait du XVIIIe siècle et ça signifie prendre congé à la française. Les Anglais se disaient qu'après tout, si nous les ridiculisions dans nos expressions, ils avaient bien le droit de faire la même chose en retour.